Croyez-moi, vous en êtes un.
J'en suis un ?
Oh oui, et un beau.
Mais vous êtes fou !
Vous écoutez les entonnoirs. Vous écoutez les entonnoirs.
Si vous êtes normal, vous n'avez rien à foutre ici. C'est évident.
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.
C'est un fou. C'est pas normal. Il n'est pas comme nous.
Les anormaux, quoi. Les anormaux. Les entonnoirs.
Si je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne.
Normal. J'ai un coup de gueule à passer.
Mais fake quoi, on fait notre émission de radio,
ouais.
Quoi.
Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Non mais c'était dingo là.
Il faudrait construire des asiles de cons et vous imaginez un peu la taille des bâtiments.
En se posant des questions.
Bonjour, bienvenue à l'émission 267 des Entonnoirs. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter, moi, François, avec Jérôme.
Bonjour, chers auditeurs.
Alors nous allons commencer par la chronique de Roger Lucien, ensuite...
Un poème de Blandine.
Ensuite, nous aurons une chronique santé de Margot.
Et ensuite, une chanson de...
Hakim. La spirale.
Alors aujourd'hui, ce sera... vous verrez, j'aime bien laisser la surprise. Voilà.
Ensuite, on parlera un petit peu de la cigarette électronique.
Ouais, c'est une nouveauté. J'ai goûté. Bon, c'est vrai que ça n'a pas l'air très fort et pas très dangereux. Mais il faut étudier, disons, encore une petite dizaine d'années pour savoir quoi. On verra bien. Ensuite, pause musicale de Margot.
Puis, on aura une petite discussion sur une visite aux Beaux-Arts de Tourcoing par Jérôme Étard.
Notamment avec Eugène Leroy, très grand peintre du XXe siècle.
Un petit poème de Blandine, de nouveau.
Et une petite page d'histoire...
Sur Marie-Madeleine et Jésus.
Marie-Madeleine et Jésus.
Enfin, une pause musicale, Hubert-Félix Thiéphen, que tout le monde connaît. Ouais. Et ce sera la fin de l'émission. Alors Roger Lucien, peux-tu parler de ton morceau ?
Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous allons écouter un genre musical qui est apparu dans les années 90, si je ne me trompe pas, en Côte d'Ivoire. Donc nous prenons la direction de l'Afrique de l'Ouest, où nous allons écouter le groupe ivoirien Magic System, qui nous interprète Zouglou Dance.
Zouglou.
Pardon ?
Ici des fous.
C'était donc le groupe ivoirien Magic System qui nous interprétait Zouglou Dance.
Merci Roger Lucien, c'était très...
très disco, je trouve, non ?
Bah, très dépaysant surtout. Ouais. Maintenant, on va passer au poème de Blandine.
Oui. Alors, je vais réexpliquer. Peut-être que les auditeurs ont oublié. En fait, ce sont pas mes poèmes. Ce sont des poèmes qui ont été écrits à l'hôpital Lucien Bonafé lors d'un atelier qui se déroule toutes les semaines. L'unité qui regroupe les patients de Roubaix Centre et qui s'appelle... Alors, on ne sait pas encore trop, hein, on hésite, avait été proposé à voix haute ou « Hommes et femmes de lettres ». Qui je trouve jolie, ou vive voix. Donc le débat est lancé. En attendant, je vais vous lire durant l'émission deux poèmes, dont un premier poème qui s'intitule « Le temps qui passe ». Le temps passe seconde après seconde, puis c'est le tour des minutes, et très vite deviennent des heures au fur et à mesure que le temps s'écoule. Les heures apparaissent, et un matin on se réveille, et 41 ans s'est déjà écoulé, puis on fait un petit bilan sur le temps passé. Je me souviens du temps que j'ai passé sur les bancs de l'école et de ces minutes de récréation qui paraissent des heures. Où sont passées toutes ces heures où je jouais sans aucune peur? C'était quand même le bon temps. Le temps de mes petits amours, mon premier petit bisou sur la bouche, et où pendant quelques secondes je devenais toute rouge. Puis les années ont passé et le temps continue d'avancer. Dans quelques jours, après quelques heures, un an de plus sera écoulé. Maintenant, les années passent et s'écoulent trop vite. J'aimerais quelquefois avoir une montre pour arrêter le temps, pour profiter le plus longtemps de tous ces instants de bonheur. Mais voilà, le temps avance contre vents et marées. Il ne me reste que ma mémoire pour me souvenir du temps. C'est déjà pas mal. Alors sur ces mots, je pose mon crayon pour profiter des futures heures qui vont s'écouler. Et je vous dis à tout à l'heure.
Merci Blandine.
Oui, c'est vous.
Merci Blandine pour cette belle lecture.
Alors il est signé, ce sont des initiales. Ce n'est plus
des écritures collectives.
Oui, le deuxième poème sera un écrit collectif. D'accord. Donc du groupe, et celui-là, donc les initiales, c'est INA.
D'accord.
Personne qu'on remercie et qu'on salue.
Ouais.
Je pense que la parole, on va la donner à Margot.
La deuxième parole.
Je lui lirai après en fin d'émission.
D'accord.
Voilà.
Margot.
Donc je vais parler de la trousse de secours qu'il faut pour partir en vacances. Donc il faudrait un thermomètre. De la biafine contre les brûlures, comme pour les coups de soleil. De la citronnelle, c'est pour éviter que les bêtes viennent sur vous. Doliprane pour les enfants, efferalgan pour les adultes. Du coton hydrophile, de l'alcool modifié 70, des pansements avec compresse antiseptique, bande en cas de foulure, plus pommade Ketum. C'est de la pommade pour soulager les douleurs. Par contre, le médicament contre le mal du voyage, vous pouvez l'acheter en pharmacie. Voir un plastique en cas de désagrément, c'est-à-dire, vous comprenez, voilà. Une bande antiseptique, voir les vaccins s'ils ont été mis à jour. Pour l'étranger, un antidiarrhée diurétique, crème solaire et une bombe rafraîchissante. Voilà, donc je pense que c'est tout ce qu'il faut pour partir
tranquillement en vacances.
En vacances, voilà.
Et pas forcément avec des enfants, Marc.
Non.
Pour tout le monde, je pense que c'est bien.
C'est pour tout le monde, ouais, voilà.
Moi, je pense que
c'est la base. C'est la base. C'est la base de ce qu'il faut.
La base. Voilà.
Eh ben, merci pour tous ces conseils.
De rien.
Merci, Margot.
Merci, Margot.
Merci, Margot.
Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Je me présente, je m'appelle Hakim et je vais vous interpréter une chanson avec ma bouche. C'est pour les musulmans et pour ceux qui pleurent pour prier. Tout comme moi, je ne prie pas encore. Souhaitons qu'on va prier et qu'on sera des vrais musulmans. Comme on dit en arabe, Inch'Allah. Je vais vous faire la chanson. J'ai vécu 1000 vies, 900 puis 100 comme la mienne qu'elles viennent. La mort, je l'ai attendu à rêve, un cauchemar sans trêve. Mon existence, quand je dis pas, j'aurais pu vivre mieux. Faire des œufs aux vieux, rendre certains en vieux. Je raconte, comptant avec mes textes, des arrois d'une vie. Être en phase avec moi-même, tous les jours je prie. Plein de frustration, mais aujourd'hui ça se voit même plus. On dit, faites comme lui, lui au moins s'en est sorti. Avoir une vie comme la mienne, je veux bien, mais à quel prix? Tellement que je pique dedans, le quartier au moins, il pèse même plus. Je vous jure, je vois même plus cette vie, c'est dur. Il y a plein de monde autour de moi, mais au fond, je suis seul. Comme Jean-Jacques, c'est dur à croire, frère, mais je marche seul. Juste un peu de dignité, vive la tête haute. Pas qu'à chaque heure qu'il fasse, qu'il dise, c'est de notre faute. Toi, quand t'étais petit, l'an 2000, tu voyais ça comment? Moi, c'est la Jewel, tu t'es bien plus méchant. Je suis de la génération Cam, sida et violence. Si demain j'ai des gosses, j'espère qu'ils auront plus de chance. Ya Rabbi l'Alamin, chouffe comme je fais. Deuxième paragraphe. J'ai peur de la vie, j'ai peur de ma vie. J'ai peur de vivre cette vie qui s'endurcit au fil de la vie. Je m'interroge sur elle, sur notre présence ici. Car quand je vois ce qu'on est, je me demande qu'est-ce que la vie, vraiment. Puisque souffrir de celle qu'on mène, plus ou moins dans celle de chacun de nous, il y a problème. La vie est un synonyme de déveine, pour moi, pour vous, pour tous ceux qui la pensent, quelle peine. C'est juste un constat de ce que moi je vois, de ce que je vis. Chaque jour, à chaque pas, je n'ai que 20 ans, tu vois, et déjà plus d'illusions. Je rêvais d'une vie meilleure, mais je me suis fait une raison. Pose donc ton regard sur le monde, et toi-même tu verras. Innombrables sont les mots de ta linonde. Le bonheur, tu y crois encore, c'est bien, mais moi, je sais qu'il ne sera jamais total chez moi, car je suis réaliste, et j'observe les faits. L'existence parfaite, dis-moi qui la connaît. Autour de moi, des gens comblés, y a pas. C'est la misère qui nous suit et qui nous colle à la peau. J'aimerais tellement dire que j'aime vivre dans cette vie, mais tu vois, je peux pas mentir. Si tu voyais les choses tout comme moi, je les vois. Crois-moi, tu voudrais changer de vie comme moi. Mais quand la mort étreint, on se débat, même quand on est ivre, autour de nous, chaos, mais l'espoir fait toujours vivre triste, essaie de faire des efforts, mais rien ne change, belle qu'à cause du passé, le futur se venge en ce moment. Je crois que ma vie se limite à peu de choses, près de moi, la chance est distribuée à petite dose, et j'ai tort d'avoir rêvé de vivre décemment, constamment, j'ai toujours en moi les mêmes sentiments. Ce sentiment, je le connais aussi, j'attends à la fin, c'est triste à dire, mais je le pense, cette vie, je préfère la mort. Je peux vivre comme ça, comme toi, je vis mieux. Mais quand je peux pas ici, je préfère quitter les lieux. Mes rêves sont tous partis en fumée, laissés au passé. J'affronte demain avec la crainte de stagner. Tu sais, en ma seconde vie, je crois que j'aurai peut-être plus de chance. Après la mort, cette étape aura moins d'importance. Je vais faire le refrain maintenant. Ayant au clair obscurci, le cœur s'endurcit, la vie assurcit. On ne rêve plus de rien, on attend la fin du monde. Prie, saigner, cette vie, je voudrais tellement changer pour être enfin heureux d'exister avec moi-même. Voilà.
Bah, c'est, bravo Hakim. Bravo Hakim.
C'est pour tous les musulmans et ceux comme moi qui pleurent pour prier parce que moi je ne prie pas encore, mais je souhaite au plus vite. Et pour ceux qui prient pas, bah, je vous souhaite de prier Inch'Allah.
Ouais, et tous les
Amin.
Autres aussi.
Merci, chers auditeurs, auditrices.
Hakim, je voudrais savoir, tu l'as écrit toi-même, c'est les paroles?
Non, c'est le groupe NAP. Et s'ils m'entendent, ouais. Je voudrais bien les voir, quoi.
C'est quoi le titre de la chanson,
Le titre, ouais.
Le titre de la chanson, c'est Le signe des anges. Parce qu'ils savent qu'ils vont partir et ils vont aller au paradis pour Inch'Allah. Voilà.
Merci, Hakim.
Je vous en prie. Merci, chers auditeurs, auditrices.
Alors, Hakim, moi, je ne vais pas chanter une spirale. T'aurais pu t'inclure dans la spirale, toi, François.
Mais oui, mais j'ai...
D'habitude, on fait face A, face B. Et une fois, c'est moi qui fais la phase A, toi la phase B, et vice-versa la semaine d'après.
Oui, mais là, on a décidé de mettre le morceau que je proposais en fin d'émission.
Ok, d'accord. Ok, super. Alors là, j'ai ramené une chanson des Pretenders qui est quand même tranquille. Le début, après ça. Écoutons plutôt Ahmed, envoie la sauce.
Pour moi, il n'y a pas de fou. Et il n'y a même pas de malade mentaux.
Les entonnoirs, les entonnoirs.
Alors, oui, ben voilà, c'était les Pretenders. C'est un. La chanteuse qui s'appelle Chrissy Hynde est une personnalité. Elle joue dans un groupe de. Il y a trois hommes. Il y a un bassiste, un batteur et un guitariste, et elle aussi tient la guitare, elle sait jouer de guitare. C'est un groupe très rock'n'roll au début, à la limite du punk rock, un peu comme les Police. J'aime beaucoup ce morceau, le et puis après ça s'emballe un peu. J'aime beaucoup ce morceau, comme beaucoup de Pretenders. Voilà, chers auditeurs, maintenant c'est la spirale, après la spirale, la cigarette électronique. Ah, il y a un nouveau truc qui vient de sortir, c'est une cigarette made in Japan Tokyo, électronique. Et alors, c'est un truc de pointe, parce que il y a de la fumée, mais la fumée elle disparaît. C'est de la vapeur d'eau ou quoi? Et il y a un bout vert ou un bout rouge, mais là c'est un bout vert.
Bon alors, s'il te plaît, Marie-Agnès, explique-nous ce que c'est que ce truc.
Bah, c'est juste une cigarette.
C'est un gadget.
C'est un gadget, oui, effectivement. Alors, c'est composé de deux parties. Le côté blanc qui suggère la cigarette en elle-même, c'est un petit moteur qu'on recharge facilement, les trois quarts du temps, sur un ordinateur. Et ce qui configure le filtre, bon, c'est là où vous avez l'aromatisation sans nicotine, je précise. C'est la recharge, en fait. Et quand on joint les deux, eh ben, ça fait de la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau, elle a un certain goût en bouche. C'est pas énorme, mais elle a un certain goût en bouche. Et c'est censé remplacer une cigarette. Moi, j'oserais dire que ça ne me remplace pas ma cigarette. Mais ça fait que dans des réunions ou dans des endroits où, logiquement, en milieu confiné, suivant la loi E20, on n'a pas le droit de fumer, je prends un sérieux plaisir à pouvoir le faire et ça me détend encore d'autant plus, surtout quand c'est des trucs, des réunions où
institutionnelles,
c'est, très stressantes, où il faut attendre que le temps y passe, ou quoi que ce soit. Enfin bon, peu importe, où il y a peu de dynamique, je veux dire. Et donc, moi, ça me permet de... d'emmerder le monde, quoi.
D'accord.
Sans être hors la loi.
Mais alors, une fois un ordinateur.
Oui.
Puisqu'il faut recharger sa cigarette avec une clé USB.
Maintenant, c'est vrai aussi que l'embout de recharge, c'est un embout USB. USB. Ouais. Ceci dit, moi, mon portable, j'ai déjà fait d'ailleurs, je le mets sur le courant normal. Et il y a justement cet embout USB qui peut se faire, et j'ai déjà mis ma cigarette au bout.
Mais Marianne, il y a un truc que je voudrais savoir, c'est au niveau chimique, parce que d'accord, tu préfères pas savoir.
Mais si, c'est de la vapeur d'eau.
Il faut savoir. Oui, mais il y a c'est aromatisé.
Ahmed, il n'y a pas de fumée sans feu.
Ouais,
c'est ce qu'on dit. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est
donc
ce qu'on dit.
Forcément, je pense que si il y a une aromatisation quelconque, il doit y avoir des produits chimiques quand même.
Ouais.
Je me doute bien
qu'ils vont pas. Mais elle s'avale cette cigarette cette fumée, elle s'avale ou pas?
Bien sûr qu'elle s'avale. Moi, elle prend le même sens que celle des cigarettes normales.
Mais en même temps, tu peux pas la garder à la bouche parce qu'elle est très lourde, cette cigarette aussi.
Oh oui, mais bon, j'ai un entraînement.
C'est un entraînement en fait.
Oui, j'ai fumé la pipe avant.
Ah d'accord.
Non, donc, plus lourd qu'une pipe, hein, en tout cas.
Tiens, en jaune, quoi.
Donc, ta consommation de cigarettes, elle a diminué?
Oui, un peu, quand même.
Donc, on peut diminuer?
Moi, je pense que ça peut aider à diminuer. Arrêter, je pense pas, mais à diminuer, oui.
Donc, il y a des cigarettes électroniques, mais est-ce qu'il y a des pipes électroniques?
J'ai jamais essayé. Maintenant, ça peut porter un autre nom aussi.
Et on doit le brevet à qui? C'est une...
J'en sais rien.
C'est français, c'est...
Mais en même temps, je voudrais reprendre un peu Jérôme, c'est pas nouveau. Ça fait quand même quelques années que ça existe.
J'ai vu ça il y a 3-4 ans.
On s'est pas si connu que ça. Qu'est-ce qu'il fait?
C'est que les lobbies, oui, ils doivent pas apprécier beaucoup qu'on leur mette ça sous le nez. En même temps, il n'y a pas de taxe pour l'État, hein, pour ça. Je veux dire, bon, il y a aussi peut-être une TVA, mais bon.
Prix de revient, combien ça coûte?
Alors le prix, moi je sais que quand je l'ai acheté, l'engin et de quoi le charger, j'ai payé 12 euros. Et que quand j'achète, 12 euros, mais j'avais aussi une cigarette complète, plus de recharge menthol, que je n'ai jamais fumé parce que j'aime pas. Et là maintenant j'achète des petites boîtes de recharge, je paye 6 euros pour 4.
Où on peut se procurer ce genre de gadget?
Comme pour le tabac, je vais en Belgique, c'est pas bien, mais je veux pas donner de sous en France.
C'est l'Europe.
J'allais dire, c'est moins cher à 5 minutes de chez moi, je vois pas pourquoi j'irais mettre des sous ailleurs, donc voilà.
Et ça se vend en pharmacie aussi?
Alors en pharmacie, j'en ai déjà vu, mais beaucoup plus cher. Donc je vais éviter.
Et moi j'ai vu des...
Et notre chère amie et notre chère collègue Margot nous dit que elle qui revient d'Espagne, eh ben il y en a en Espagne pour la moitié prix de ce que j'ai payé.
Oui c'est ça. Oui tout à fait.
Et moi j'ai vu des clubs en fait. Ce sont des clubs spéciaux pour fumeurs de cigarettes électroniques. C'est des cafés, c'est des bars à thème spécialement pour les fumeurs de cigarettes électroniques. Ils viennent dans le café, ils peuvent fumer.
Encore de la ségrégation. Et les cigarettes normales, alors?
Là, on fume de manière électronique et on va manger peut-être bientôt de manière électronique.
Oui, comme comment c'était ce film avec Clint Eastwood?
Le soleil vert.
Le soleil vert.
Ah oui.
Ce live vert, c'est pire que ça. C'est ouais, que.
Avancement choix même. Hein.
C'est que oui, c'est les déchets de l'humanité entre guillemets.
Peut-être pas tout à fait, que les personnes âgées c'est des déchets d'humanité.
Oui, enfin ceux qui sont considérés par la société comme inappropriés, oui, voilà, qui servent de bouffe aux autres. Ouais. Alors la suite, c'est une pause musicale proposée par Margot. Alors Margot, tu peux nous en parler?
Oui, donc c'est Julien Clerc avec Assez.
Pour moi, il n'y a pas de fou. Et il n'y a même pas de malade mentaux.
Les entonnoirs.
Maintenant, Tar va nous parler avec Jérôme d'une visite qu'il a faite au musée des Beaux-Arts de Tourcoing.
Oui, j'ai fait une visite au musée des Beaux-Arts de Tourcoing. Alors, j'ai vu des belles œuvres, des œuvres contemporaines et des œuvres un peu plus classiques. J'ai vu notamment du Eugène Leroy. Jérôme, il doit connaître. C'est. Ouais,
je l'ai rencontré, je le connaissais.
Il le connaissait. C'est un Allemand.
Personnellement, j'ai
un
dit.
Personnellement, d'accord. Et donc, moi, ce que j'ai vu de lui, ce sont en fait des dessins, mais pas des peintures. Ce sont des dessins faits avec du fusain.
D'accord.
je sais pas si on peut dire c'est un,
c'est de la peinture, mais c'est un dessin, c'est un dessin, c'est une œuvre. On dit c'est une œuvre.
C'est une œuvre.
Quand c'est une très belle œuvre, on dit c'est un chef-d'œuvre.
Mais c'était très beau, donc j'ai vu pas mal de tableaux de lui. J'ai vu des nus. J'ai vu aussi Jésus-Christ. Ouais. J'ai vu Jésus-Christ, une scène de la Bible aussi, quand il s'est fait crucifier. Ouais. J'ai vu ça, donc il y a un rapport aussi avec l'histoire, avec la religion, avec la théologie, quoi, avec la religion chrétienne. Donc il a peut-être entretenu une inspiration par rapport à Jésus-Christ, peut-être qu'il était croyant, mais les artistes en général ne sont pas très croyants, Jérôme.
Je pense que Jeanne était croyant, mais sur ce quoi j'aimerais bien parler, insister tard. As-tu vu des peintures, des peintures de Jeanne Roy, vraiment des peintures pas des croquis, pas des dessins, mais des peintures.
Ah, il me semble que j'en ai vu.
Alors qu'est-ce que t'as vu ? Décris ce que tu vois.
Mais je m'en souviens pas tellement. Hein.
En fait, c'est difficile. Moi-même, la première fois que j'ai vu un Eugène Leroy, je croyais que c'était n'importe quoi. Mais en fait, il faut faire constamment et bien regarder, bien observer, seul, sans personne à côté de toi qui parasite. En fait, une œuvre, ça se découvre tout seul. Ça peut être dans un bouquin, mais au musée c'est mieux parce que on a l'épaisseur de la peinture. Et alors il faut avancer et reculer constamment, même très loin. Et tu lis le titre et tu sais que c'est une personne. J'avais rencontré Marina qui était sa compagne. Et en fait il faut avancer et reculer. Et donc Marina peint aussi d'ailleurs, elle prend des très belles photos, c'est une très très bonne photographe. Et ça a marqué même moi dans ma peinture personnelle. Personnellement, ça m'a bouleversé au début,
Et est-ce que ça t'a influencé ?
Influencé non, mais je fais pas exprès, je peins au couteau. Eugène lui peignait au pinceau, mais en fait la différence c'est que Eugène Leroy mettait des couches énormes, il revenait constamment mais à chaque fois. Et quand il y a même une fois Marina m'avait raconté dans le musée Eugène, il y avait une toile qui n'était pas tout à fait sèche, il modifiait mais par ange un tout petit peu. Et le gardien a dit non, on n'a pas le droit de toucher. Mais lui il a dit c'est moi qui l'ai faite, c'est mon œuvre, donc j'ai le droit, quoi.
Mais moi,
voilà l'anecdote.
Merci Jérôme pour cette anecdote. Mais moi ce que je voulais dire c'est que j'ai vu une vingtaine d'œuvres de lui et pourtant il n'y a pas de titre, il n'y a pas de nom, il n'y a pas donné de nom à ses œuvres. Ouais, et pourtant c'était des belles œuvres. Ouais. À chaque fois c'était marqué son nom, il n'y a pas de
la date,
il n'y a pas de titre. La date était donnée, Parce mais j'ai vu aussi du Rembrandt. Et j'ai vu pas mal d'œuvres. Après, j'ai vu des photographies. Ouais. Des photographies. Et après, il y avait des...
Elles étaient de qui, les photographies?
Ah, c'est des auteurs contemporains, des auteurs anglais.
Marina qui...
Peut-être, c'est possible. J'ai vu des photographies d'œuvres contemporaines. Ben, des œuvres récentes, hein, des photographies, comme si je te photographiais, comme si je me photographiais.
Ouais. Mais tu sais, Marina, elle saisit l'instant, l'instant. Rien n'est instantané. Quand tu appuies sur un bouton, que ce soit d'un ordinateur ou un appareil de photographie, il y a toujours un milliardième de seconde. Et un bon photographe ne va pas te prendre en train de cligner des yeux, fermer les paupières. C'est vraiment l'instant.
Et moi, ce qui m'a touché chez Eugène Leroy, c'est en fait qu'il dessine, qu'il met un peu sa couleur au fusain. Et mais il
attends,
va
le
déjà,
fusain,
il
le
va,
fusain n'est pas coloré, attention, c'est noir, c'est noir le fusain. Ouais. À la craie grasse, là, au pastel ou à la craie grasse.
Ouais, le pastel, il me semble que c'était pastel. Mais il me semblait que il va directement à l'essentiel.
Voilà.
Lui, Eugène Roy, il va à l'essentiel. Dans les œuvres que j'ai vues, il n'y a pas trop de détails, on voit les formes, tout ça. Ouais. Mais on voit quelques traits, mais les plus importants.
Suggéré.
Ouais. C'est suggéré, il n'entre pas dans les détails, les yeux, etc., la couleur des yeux, la forme de la bouche, tout ça, c'est suggéré en fait, hein. C'est de la suggestion en fait, hein. Donc c'est ce que j'ai aimé dans cette exposition que je vous invite tous à voir. Et bon voilà, je vous remercie tous.
Donc tu peux nous rappeler qu'il y a beaucoup d'œuvres d'Eugène Leroy en fait,
d'Eugène Leroy, oui,
qui sont exposées au Beaux-Arts de Tourcoing,
au musée des Beaux-Arts de Tourcoing. Et puis pensez à y aller le premier dimanche du mois, c'est gratuit pour tout le monde.
C'est gratuit, le musée de Lille, le musée de Tourcoing, le musée de Roubaix.
En France, partout.
Le
en
Nord,
France.
On a plein de trucs dans le Nord. Plein de trucs. Hein. On est vraiment une région qui est chanceuse. Il y a beaucoup de chômage, c'est vrai, mais on est une région qui est très active. Mm-hmm. Et je sais pas si je l'ai déjà dit, mais quand j'avais été à un concert de Jean-Michel Jarre avec Frédéric, un camarade, en fait, il est rentré sur scène et puis il a dit bonjour Lille, une ville qui bouge. Ça fait quelque chose, tu comprends.
Et Eugène Leroy était nordiste ou pas?
Il est né, je pense, à Ouascal.
Ah, donc c'est un nordiste, alors.
C'est un nordiste.
D'accord.
Il est né à Tourcoing. Il est né à Tourcoing.
Non,
ça me revient, il est à Tourcoing.
D'accord, merci à vous.
Merci tard.
Merci Jérôme.
Merci François.
On va passer maintenant à un poème proposé par Blandine et lu par Marie-Agnès.
Mais qu'y a-t-il dans ce petit étui rose ?
Dans cet étui rose, il y a des sous. Dans ce petit étui rose, il y a mon lendemain. Il y a des coquelicots sur le bord des routes. Dans cet étui rose, il y a une clé. Cette clé ouvre toutes les portes, sauf la porte de mon cœur. Dans cet étui, il y a du rouge à lèvres, de l'eyeliner, du ricil, de la poudre, de la féminité à l'état pur, quoi. Dans cet étui, il y a un souvenir. Dans ce petit étui rose, il y a tout l'amour et la tendresse que l'on peut m'apporter. Pour mon compte personnel, j'avais l'artère fémorale de coupée et j'ai perdu beaucoup de sang. Les pompiers, que j'apprécie beaucoup, m'ont sauvé la vie. Et dans ce petit étui rose, il n'y a rien, rien, ce qui n'est pas plus mal. Dans cet étui rose, il y a des rêves de midinette. C'est un écrit collectif fait le 8 du 9 2011.
Merci.
Merci, bravo, Blandine, bravo.
Merci.
La petite page d'histoire maintenant, il me semble. Hein.
Oui.
La petite page d'histoire, mais c'est la petite histoire, hein, pour rigoler aussi.
Alors,
petite histoire qui est devenue grande, hein, maintenant tout le monde le sait.
Ah bah, c'est comme ça qu'on fait l'histoire.
Gilbert, on était parti sur une question ce matin. C'était d'abord sur le premier symbole du christianisme. C'était François qui disait que c'était le poisson.
Bah oui, à cause de la multiplication des poissons, de la pêche miraculeuse, pardon, dans le lac de Tibériade. C'est le premier miracle en fait qu'a accompli Jésus et c'est resté le symbole des chrétiens pendant plusieurs siècles.
Oui, avant qu'il y ait la croix.
Avant qu'il y ait la croix.
Avant qu'on pense à les crucifier vraiment tous, hein, surtout je crois.
Ouais.
Donc après la crucifixion,
on
est arrivé à la croix. Le poisson, on l'a éliminé.
Ouais.
D'accord.
Ça s'est fait petit à petit.
C'est sympa le poisson aussi.
Mais c'était quand on était chrétien à cette époque-là, c'est-à-dire sous le temps des Romains, c'était quelque chose qui n'était pas reconnu. Il fallait surtout pas que les gens le sachent. C'était de l'hérésie. Hein, immoralité. Ils faisaient ça du bout du pied, dans le sol, dans la poussière du sol, pour se reconnaître entre eux. Ou griffonner sur un mur pour montrer l'endroit où les rassemblements avaient lieu, parce que bon, c'est pareil, les rassemblements étaient interdits, tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'était le temps du poisson.
Et je voulais savoir, est-ce que tous les apôtres de Jésus-Christ, tous les disciples de Jésus-Christ, tous les amis de Jésus-Christ ont été anéantis, sont morts en même temps que lui ou après lui.
Ah bah non,
à cause des Romains,
sinon il y aurait pas cette religion. Si tout avait été anéanti, on n'en parlerait plus. Mais
quelques-uns des apôtres ont été malmenés.
Les apôtres ont été persécutés.
Pas tous, mais
à l'époque, c'était quelque chose. On dit même que les chrétiens ont été persécutés de tous les temps.
Bien sûr, c'est comme ça qu'on a fait. Ne serait-ce que Sainte Agnès, elle est quand même morte en arène, bouffée par les lions.
Sainte Blandine aussi. Les lions se sont couchés à ses pieds.
Quoi, ils ont été mangés, dévorés par les lions.
Il y a eu beaucoup de temps, au début de la chrétienté, et notamment avec beaucoup de saints, ils ont été persécutés, à commencer par le premier, Saint Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a eu la tête coupée et ramené en plateau, sur un plateau d'argent à, je sais plus qui d'ailleurs.
À la femme du gouverneur.
Gilbert.
Pourquoi que les chrétiens ont été martyrisés? Ils étaient si bons.
Qu'est-ce qui était bon, les chrétiens?
C'était simplement parce que les Romains, ils avaient peur pour leur place, que, à l'époque, c'était comme ça. Un homme sans scrupules, comme Clovis y a fait à la chute de l'Empire romain, Il aurait faim d'être semblant d'être chrétien pour lui dominer. Alors les empereurs romains, ils voulaient pas ça. C'est pour ça qu'ils ont persécuté les chrétiens.
Tout à fait.
Parce qu'ils avaient peur pour leur place.
Mais aussi, sûr, il faut Gilbert. Savoir aussi, Gilbert, que Ponce Pilate ne voulait pas mettre à mort Jésus.
Ouais, il a laissé le choix à l'assemblée qui était là, et l'assemblée a choisi Barabbas au lieu de choisir Jésus.
Mais moi, je voulais savoir, quand Jésus a été arrêté, est-ce qu'il a été arrêté seul ou avec ses disciples, et est-ce qu'ils ont tous été, tués?
Non, l'ordre était de l'arrêter seul. Certes, il a été arrêté au milieu de ses disciples, enfin, il était un peu à l'écart, hein. Il était en train de prier dans le mont des Oliviers, les autres étaient en bas, ils étaient pas très loin, s'ils avaient plus voulu faire une rafle, ils l'auraient fait, les Romains. Mais, je sais même pas si c'est les Romains eux-mêmes qui l'ont arrêté. Je pense que c'est les Romains.
Parce qu'il a été,
Il a été jugé,
mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a dénoncé?
Judas.
Alors, on parle de Judas.
Est-ce que c'est Judas?
Il y a des polémiques là-dessus.
Donc on n'est pas sûr.
Judas avait dit à la milice, c'est celui que j'embrasserai qui se dit le Fils de Dieu. Voilà. Et il l'a embrassé.
Mais en fait, il a été.
Et après, voilà.
Il a été arrêté parce qu'en fait, il faisait de l'ombre à la religion officielle qui était le judaïsme. Et c'est les grands pontes de la religion qui l'ont fait arrêter sous couvert des Romains. Et les Romains, ça les arrangeait bien parce qu'en fait, ils troublaient l'ordre public. Donc les Romains ont arrêté quelqu'un qui desservait la cause juive, entre guillemets. Et c'est comme ça qu'il a été arrêté.
Et pourquoi que le Christ, pourquoi que le Christ a été dénoncé par Judas? Parce que Judas a eu 30 pièces d'or aux Romains. Judas était culpé d'ailleurs pour 30 pièces d'or, il a livré le Christ aux Romains.
Alors qu'est-ce qui est devenu Judas après?
Il s'est pendu.
Il y a eu des remords, il s'est pendu.
Ça c'est encore bien difficile à expliquer, mais bon après... Il fallait bien trouver quelqu'un qui le livre, un coupable, tout ce qui s'ensuit. C'est pareil. De toute façon, il y a beaucoup de polémiques autour de la religion, autour de Jésus. C'est un homme.
Est-ce que Jésus avait une femme?
Oui.
Est-ce qu'il a eu des enfants?
Oui.
C'est une polémique ou pas ça?
C'est une polémique.
Alors, c'était qui sa femme?
Il apparaîtrait que ce serait Marie-Madeleine.
Marie-Madeleine qui était une prostituée?
Oui.
Donc il aurait eu des enfants.
Oui.
Mais on retrouve pas la trace des enfants.
Ah, surtout pas. Imagine que tu descends de Dieu après. Comment on peut l'expliquer?
Je serais tout puissant là aujourd'hui.
C'est beaucoup plus facile.
On m'internerait en psychiatrie. Si je me dis que je suis le fils de Dieu.
Voilà, je pense que c'est beaucoup plus facile quand on fait une religion de dire que Jésus. il est descendu dans le corps d'un homme, enfin en gros, hein, comme ça, dans le corps d'un homme, il est devenu fils de Dieu, mais à l'image des humains, et que bon, à 33 ans, bon, on a tout fait pour qu'il parte, reparte rejoindre son père, et moralité, il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Ceci dit, à 33 ans, à cette époque-là, bah, c'était déjà un vieillard. Hein, c'était déjà quelqu'un d'âgé. Donc oui, forcément, il a certainement eu une descendance, tout comme il avait des frères et sœurs. Mais bon, après, c'est pas le plus intéressant. Et non. C'est surtout pas ça que la religion va retenir.
Non, t'en retiens pas. Mais en même temps, moi, j'ai une autre question. Pourquoi les curés, donc, ne se marient pas ou n'ont pas de compagne?
À cause d'une bulle papale.
Tradition. C'est-à-dire?
Non, c'est pas une tradition. C'est qu'à un moment donné, alors c'est très complexe. Je ne sais plus laquelle d'ailleurs c'est la bulle, mais c'est très complexe. Pendant longtemps, prêtres, enfin tout ce qui était ecclésiaste et tout ce qui s'ensuit, et notamment le pape, ont eu femmes mignons, parce que bon, il y en avait qui avaient des mignons, et tout ce qui s'ensuit sans que rien ne puisse être choquant.
C'est quoi un mignon, excuse-moi?
Un mignon, c'est quand t'aimes les garçons, mon grand.
Ah, les papes aimaient à la fois les femmes et les garçons.
Ben non, ils aiment les garçons, mais ils ont des petits mignons. Oui, mais ça c'est, je veux dire, ça n'a rien d'important. Et il est arrivé à un moment, notamment quand c'était les papes italiens, où c'est devenu vraiment insupportable. Et en plus, ils se tuaient entre eux pour pouvoir hériter et tout ça. Et il y a eu un pape qui voulait mettre son fils à la place de lui. Enfin, bon, c'était très complexe. Et on a essayé d'arrêter ça. Enfin, le pape, vu comment ça prenait, a édité une bulle papale lors d'un concile, et où là, tout ecclésiaste devait honorer le vœu de chasteté. Et voilà.
On sait que le pape est le pape dans le Moyen Âge, sur la châtaigne qui a eu la guerre, c'était César Borgia.
Oui.
Le pape, qui était fourbe et cruel, d'après le dictionnaire, c'était le fils du pape.
Ouais, mais c'est vrai qu'il y a énormément, et notamment au niveau de Florence et tout ça, et de Rome, ça a été vraiment pas le bordel, hein, comme on peut dire. Bon, on a quand même eu à Avignon une papesse.
Ouais, on a eu une papesse, la papesse Jeanne.
Savez-vous que quand un pape est nommé pape, on vérifie quand même que c'est un homme.
Ouais.
Voilà, la chaise papale, elle est faite et constituée de telle façon qu'on puisse vérifier que c'est un homme.
Alors, elle est comment elle est?
Bah, un trou et tu mets ta main en dessous. D'accord. Enfin, t'as pas beaucoup d'imagination, Jérôme.
C'est vrai.
Moi, j'ai Lucien.
C'est le genre de truc qui, bon.
Moi, j'ai Lucien.
Je sais pas. Je suis dans le brouillard, voilà.
Reste dans le brouillard, bon, c'est pas grave.
Moi, j'ai une question qui peut peut-être faire l'objet d'un débat. Moi, je me demande s'il faut pas apporter quelques réformes pour que dans un avenir, les prêtres, les papes puissent avoir des épouses, faire des enfants, parce qu'on est actuellement dans la polémique de la préélection présidentielle en France actuellement sur la question sur le mariage des homosexuels. Donc l'homme apporte des réformes dans son quotidien, oui.
Mais c'est pas politique.
Je vois pas pourquoi.
C'est pas aux politiques d'apporter une solution, excuse-moi, mais c'est au pape.
Mais c'est au niveau religieux, Roger Lucien. Moi, je pense que c'est peut-être plus facile d'écarter les femmes de ce genre de. C'est quand même un des privilèges des hommes. Tout ce qui est Rome et les papes et les cardinaux et les évêques, il n'y a pas de femmes. Il y a des diacres femmes maintenant. Un diacre n'étant pas un prêtre. Mais il y a jamais eu de femme, et jamais ils voudront nous laisser la place là-dessus.
C'est quoi un diacre?
Un diacre femme.
Jean-Paul II, il y avait des balles là.
Oui.
Il y a l'ex-secrétaire serait certain.
Tu étais là?
Non.
Et s'il était qu'une femme, et alors il lui avait bandé les yeux. Et elle a dit, j'ai fait l'amour avec le pape Jean-Paul II.
Je pense pas, Gilbert.
Alors ça, c'est impossible. Je m'insurge.
Je pense que la béatification du pape, de ce pape-là en général, ça nous permet pas de penser à ça. Bon, mais maintenant, on n'est pas là tout le temps. Et puis bon, c'est un homme, après tout, un pape.
Tu crois qu'il y a des examens médicaux pour ça?
Pour savoir si t'es un homme?
Non, pour savoir s'il a eu des rapports, etc.
Je crois que c'est même pas leur souci.
Il a fait vœu de chasteté, tout ça.
Sans qu'infirmière, c'est impossible de...
Bah non.
Une femme, on peut le voir, un homme, non.
Non, voilà. Encore mais... un privilège. Mais, voilà, voilà. Oui. J'ai l'impression
Il y a privilège et privilège, Marie-Agnès. Il y a celui qui met la petite graine et celle qui porte l'enfant.
Oui, ben les autres privilèges ouais, là-dedans.
C'est sûr, mais c'est la maman. C'est...
Oui, Roger, non, attends, non, Roger Lucet veut dire quelque chose, là.
Moi, je pense que, revenant à ce que j'ai dit tout, précédemment, moi, je pense que tout homme sensé a besoin du plaisir de la chair.
J'en suis convaincu.
Donc, à un moment ou un autre de sa vie, il a besoin du plaisir de la chair.
Voilà.
Donc,
alors, il faut reconnaître donc, aussi qu'il n'y a pas beaucoup de religions où l'homme est obligé de faire un vœu de chasteté. Il y en a, hein, mais
dans
bon.
La religion bouddhiste.
C'est pas pareil. Ça peut être que pour un temps. C'est pas une obligation pour toute ta vie. Ça peut l'être, mais c'est pas obligé.
Mais moi, je pense que
aussi des vœux de telle façon à ce qu'il ne parle jamais ou qu'il ne fasse pas tel geste. C'est pour une obligation. C'est une obligation pour eux dans leur psychologie, dans leur philosophie. Mais après.
C'est quand même une sacrée contrainte quand même que se sont imposés les curés quand on voit leurs conditions de vie, les dérapages qu'il y a eu.
Les prêtres maintenant, ceux qui
officient
dans les paroisses, même vie dure.
Moi je pense que c'est très difficile d'aller contre nature. Et c'est pour moi d'aller contre nature que de dire à un homme, jamais tu te rends pas ton pinceau. Voilà, donc... écoute, j'essaie d'être un
C'est un pinceau, c'est très poétique.
Jérôme,
monsieur l'artiste, ouais. Hein, qui utilise le couteau, Jérôme.
Je préfère un pinceau.
J'ai même un chat qui s'appelle pinceau.
Ah, bah oui.
Non, mais... Je veux pas le tremper non plus, hein.
Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que... j'ai entendu dire que certains ecclésiastiques prenaient du bromure pour faire face à leur vœu de chasteté. On leur donnait des médicaments pour...
Oui, il y en a qui sont... je pense que oui, hein. Et ça se révèle sur un tas. Maintenant, moi, je dirais aussi que toutes les histoires qu'on a vues de pédophilie chez les ecclésiastes ne sont pas pour rien non plus.
Ouais. Bien sûr.
Parce que, voilà, ils sont pas contre moins qu'un autre.
Voilà.
Et s'ils n'ont pas le droit de faire autre chose.
Mais c'est important aussi, je voudrais dire, sur tout ce qui est religieux, même pas seulement chrétien, musulman, bouddhiste, il faut prendre les livres, et si vous voulez vraiment connaître le tenant des aboutissants, vous lisez la Bible, vous lisez le Nouveau Testament, vous lisez le Coran, vous lisez il doit y avoir des écrits aussi.
La Bhagavad Gita.
Voilà. Et vous lisez, c'est pas fini. Il y a encore autre chose, que j'ai oublié d'ailleurs, mais qui est important, l'histoire de l'art et de l'art et la religion sont fondues. Pourquoi? Nous sommes des hommes, nous sommes mortels. Un jour, on est sous terre. Et l'homme a commencé à s'élever un petit peu, je dis un petit peu, mais c'est déjà beaucoup, lorsqu'il n'a pas laissé pourrir ses camarades, et il les a enterrés. Et c'est, l'homme enterre, c'est mort. Quel animal le fait? Peut-être des singes, je ne sais pas.
Tous les hommes n'enterrent pas leur mort. Hein.
Ah oui, non. Mais je veux dire, l'homme est le seul être vivant. Je parle des animaux, du monde animalier. Nous sommes nous-mêmes des animaux, des mammifères. Oui. Des mammifères.
Tout à fait.
On va dire équipés et perfectionnés et aussi plus grands prédateurs. Mais voilà. Soit on pique dans la nature le fruit, soit on le prend avec respect. Et voilà quoi. La nature nous a donné beaucoup de choses et nous sommes nous-mêmes naturels.
Ouais, on va peut-être passer.
Je voulais juste dire une dernière chose, c'est que c'est un petit peu paradoxal parce que dans la religion chrétienne et dans toutes les religions, on dit que le but d'une vie pour un homme et une femme, c'est de se rencontrer, de procréer, d'avoir des enfants, alors que dans la religion chrétienne ou catholique, on dit qu'il est interdit d'avoir une femme et des enfants.
C'est un paradoxe.
Oh, tu sais quoi, on va envoyer une lettre au pape et on va lui demander pourquoi il veut pas changer.
Mais François, on n'a pas le droit de nous marier ni d'avoir d'enfants, non?
Non, les religieux.
Ah, les religieux.
Les prêtres. Les prêtres, les prêtres, les curés.
Mais les prêtres, ils vont avec des femmes. C'est parce qu'ils enferment les yeux.
Mais oui, Gilbert, t'as raison.
Ils sont les premiers à reconnaître qu'ils votent des
femmes. Bien sûr, Gilbert. Bon, avant, c'était l'excommunication, plus maintenant. Alors bon, ça va, c'est mieux.
On étouffe l'enfer.
T'as raison, Gilbert. Allez, on va passer à autre chose.
Il n'est pas vendredi 13 non plus.
Non, on vient de le passer.
On vient d'en passer un.
Ouais.
Bon, ben c'est pas grave. Alors au prochain vendredi 13.
Ouais.
Bon, chers auditeurs, chères auditrices, nous reste à vous souhaiter une bonne semaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir.
Vous savez les entonnoirs qu'on trouve dans les tornades.
Écoutez les entonnoirs en podcast sur le blog des entonnoirs http://lesentonnoirs.over-blog.fr.
Parce que c'est des gens parce qu'ils donnent plus fou dans la tête, et ça gratte plus fou sur ma tête, et je viens plus fou, c'est ça, des gens.